Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, on démarre tout de suite avec le sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé avec notre coup de cœur cinéma cette semaine consacré à Cassandre, le film d'Hélène Merlin qui sort mercredi dans les salles. Hélène Merlin nous rejoint dans un instant pour en parler. Nos coups de cœur télé sont nombreux avec l'arrivée de Kaboul. C'est la série internationale qui arrive ce soir sur France 2 à cette occasion. Jonathan Zakaï sera en ligne avec nous pour en parler. Et puis on va parler aussi bien sûr de nouveaux rendez-vous avec l'amour. C'est l'after de Marie au premier regard avec Ludivine qui va donc se donner une deuxième chance de trouver le prince charmant. Et puis on va parler aussi de Flashback, votre nouvelle série inédite qui débarque jeudi sur TF1. À cette occasion, nous recevrons la scénariste Clélia Constantine, les producteurs Anthony Lancré et Lola Manahi, ainsi que Constance Gay, l'héroïne principale. Et puis enfin, on parlera également du crime de la Tour Eiffel qui sera diffusé samedi soir sur France 3 à partir de 21h10. À cette occasion, le réalisateur Julien Seri et également Flore Bonaventura seront nos invités pour en parler. Et en exclu podcast également cette semaine, eh bien nous aurons le plaisir de recevoir Olivier Tosker qui est le réalisateur d'un documentaire très intéressant qui sera diffusé dimanche soir à 21h05 sur France 5 intitulé « Très chère électricité ». On va apprendre plein de choses. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti tout de suite avec notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné consacré à Cassandre qui sera en salle dès mercredi, un film de Hélène Merlin qui est avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler de cette histoire assez singulière, de cette famille, de ce personnage de Cassandre qui vit dans une famille, on va dire un peu disjonctée, qui sort des sentiers battus en quelque sorte et qui il va falloir qu'elle trouve sa place à 14 ans. Cassandre qui est incarnée franchement par Billy Blin, qui est juste incroyable.
Oui, absolument. Une famille haute en couleur avec Eric Ruff qui joue le père, Zabou Bretman qui joue la mère et Florian Le Sieur qui joue le frère, effectivement, autour de Billy Blin.
C'est un peu une histoire d'émancipation quand même, hein.
Tout à fait. Effectivement, c'est donc Billy Blin qui joue le personnage de Cassandre, fille d'un père militaire qui l'a envoyée dans un pensionnat militaire où du coup elle a l'habitude de pratiquer l'équitation à la caserne militaire, où elle a l'habitude de l'été revenir monter dans la caserne de son père. Donc elle baigne comme ça dans un climat familial, un climat d'éducation un peu strict, un peu autoritaire. Et cet été-là, effectivement, parce que son père s'est fâché avec l'instructeur du centre de la caserne, elle va découvrir un autre centre équestre, on va dire normal, un centre équestre où on pratique une équitation de légèreté, de en connexion avec l'animal.
De loisir.
de loisirs où on est très inspiré par le courant un peu de l'éthologie, des nouveaux chuchoteurs qui sont très respectueux à l'écoute de l'animal. Et donc elle va se rendre compte que un autre moyen d'être au monde, de communiquer, de relationner est possible, une autre manière de monter à cheval est possible, et ça va lui permettre de s'ouvrir en fait et de d'être en relation autrement, et voilà, et c'est très différent de ce qu'elle connaît elle dans sa famille et dans son pensionnat militaire.
On est vraiment sur une famille un peu rétrograde quand même, malgré tout. Zabou Breitman et Eric Ruff, c'est une famille qui vivent, alors ils vivent un peu tous à poil, hein, en quelque sorte. Il n'y a pas de tabou sur la nudité. Il y a quand même quelque chose d'assez, je vais pas dire sauvage, mais liberticide dans cette famille. Mais ça cache aussi beaucoup de choses, mine de rien, tout ça.
En fait, c'est une famille assez singulière parce que effectivement, elle est marquée par, on va dire, le poids de, on va dire, de la bourgeoisie, parce que c'est quand même des gens qui vivent dans un château, enfin dans un manoir. Donc il y a quand même le poids d'une classe sociale, on va dire. Il y a aussi le poids de l'armée, le fait que le père soit militaire. Donc il y a tout ça cette famille qui est un peu pesante, qui est chargée par ça. Et aussi, c'est une famille donc des parents qu'ont connu mai 68, donc qu'ont connu dans leur jeunesse. Ce rapport au corps, cette libération sexuelle, etc. Donc en fait, c'est une famille assez singulière parce qu'elle est marquée par deux extrêmes, à la fois le rapport au corps où ils se promènent nus dans la maison, où il y a un rapport à la sexualité, des blagues qui sont faites, il y a un rapport à l'intimité qui n'est pas vraiment respecté. Donc ils sont marqués par ces deux, on va dire, antipodes, ces deux extrêmes, et ça crée beaucoup de dysfonctionnements en fait au cœur de cette famille.
Et Cassandre, qui pense que tout ça c'est normal, puisqu'elle a toujours baigné un peu dans cette éducation-là, va s'apercevoir en s'ouvrant à l'extérieur que c'est pas la normalité, qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas normales. On va pas tout déflorer évidemment le film, mais voilà, va être victime de choses effectivement qui ne sont pas du tout normales dans ce contexte familial. Il faut replonger aussi l'histoire et bien dire qu'on est en 1998, l'été de la Coupe du Monde, qui serait peut-être pas possible, ou moins aujourd'hui, quoi, de nos jours.
Oui, tout à fait. Pour revenir à cette idée de la normalité, en fait, je pense que chaque enfant, chaque adolescent qui vit dans sa famille considère que, comme c'est la première unité sociale dans laquelle il grandit, que c'est la normalité. Je pense que chacun, quand on vit au sein de sa famille, on n'a pas forcément une vision du monde très élargie, on se rend pas forcément compte qu'il y a une anormalité. Et donc, c'est exactement ce que va vivre ce personnage-là, qu'elle va comprendre que tout ce qu'elle a pu vivre avant, c'est une manière de vivre, mais qu'il y a aussi d'autres manières de vivre, de relationner, d'être au monde, et c'est ce qu'elle va découvrir. Et donc sur cette scène effectivement de la Coupe du Monde 98, on va comprendre qu'elle est en décalage par rapport à ce qu'on appelle la normalité.
Exactement. Le casting est juste dingue. Billy a été découverte comment, en tout cas par vous, par les producteurs peut-être?
Casting. Donc on a fait un énorme casting elle est venue un jour dans le bureau, et j'ai eu un coup de cœur un peu pour elle parce qu'elle a quelque chose de très singulier, d'un peu sauvage, d'un peu blessé, et une grande beauté. Enfin, elle est très cinégénique, donc elle avait quelque chose vraiment du personnage. Après, tout le travail qu'on a fait, c'est de l'amener jusqu'au personnage, parce qu'elle n'était pas entièrement le personnage, donc de l'amener vers quelque chose de plus rugueux, de plus violent, de plus impulsif, parce que le personnage a aussi ces deux facettes là enfin un visage très doux et en même temps une grande violence, donc il fallait l'amener dans le travail jusque là
elle fait passer énormément d'émotions par le regard, par justement des gestes. C'est ça qui est assez dingue. Moi, j'ai trouvé d'une maturité exceptionnelle. Peut-être que vous l'avez découvert, certains d'entre vous, dans Le Règne Animal, mais elle a quelque chose de magnétique, quoi. Elle transperce vraiment l'écran, elle est sur tous les plans, elle porte le film, hein, vraiment littéralement.
Elle est toutes les séquences, presque de tous les plans, effectivement. Autour d'elle, il y a effectivement Zabou Breitman, Eric Ruff et Florian Le Sueur qui vraiment l'accompagnent dans ce trajet qu'elle fait, qui sont d'excellents acteurs, et donc c'est toujours aussi très riche de pouvoir être accompagné par des partenaires qui sont très forts. Donc je salue évidemment le talent de Florian Le Sueur qui joue son frère, de Zabou Breitman et Eric Ruff.
On va en parler de Florian dans un instant.
Dans un instant, mais effectivement, Billy, elle est un peu à part de cette famille, donc c'est un personnage un peu mutique, et effectivement beaucoup d'émotions passent juste par son regard, par
moment de silence,
par son mutisme, par son immobilité, par la manière dont elle va regarder cette famille-là autour d'elle.
Cassandre, mercredi au cinéma, on écoute la bande-annonce, on revient juste après avec Hélène, la réalisatrice qui est avec nous. À tout de suite, bougez pas.
Je peux venir avec une copine du centre équestre ?
On est là !
Ici, c'est la chambre de mon frère.
Mais il a jamais vu une fille en maillot, ton frère, ou quoi ?
Mais tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement.
Mais t'as des poils.
C'est bon.
Hé, hey, mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein. Faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein.
On ferme les yeux, diaphragme décontracté, les mâchoires détendues.
Il y a quatre types de réactions face à un danger ou une agression.
Aïe, mais ça fait super mal. Tu veux pas une péridurale non plus?
Et on cale sa respiration sur celle de son cheval.
Le premier instinct reste la fuite.
Ah non, attends, mets le maillot!
Respire.
L'attaque a toujours été ma préférée. Et puis, il y a le figement.
Respire.
Et enfin, il y a une soumission à une agression répétée.
Hé, hey, oh, oh! Stop, on fait pas ça ici. T'as le droit d'être en colère, mais pas de la passer sur lui.
Allez, de retour pour notre spécial Cassandre. Ça sort ce mercredi dans les salles. Hélène Merlin, la réalisatrice, est avec nous. Hélène, on va parler de Florian qui joue le frère hein, de Cassandre, que vous avez peut-être tous découvert dans le rôle de Noé dans Plus belle la vie. Vous allez voir que là, il est totalement hallucinant, Florian. Et franchement, je le salue parce que c'est un ami de l'émission qu'on aime beaucoup. Et là, il offre une partition totalement dingue.
Alors effectivement, Florian, ça a été aussi un gros coup de cœur quand je l'ai rencontré en casting. Ça a été une évidence parce que il a une pureté, une innocence, une très très grande intelligence et on sent, enfin tout de suite j'ai senti qu'il avait une grande technicité. Que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui se documente, qui lit, qui répète, qui prépare sa voix, son corps. Enfin c'est quelqu'un qui est un acteur qui travaille énormément avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité et ça a été fou sa rencontre et très vite en fait j'ai aussi découvert qu'il faisait du rap et j'aime beaucoup ce qu'il fait et en fait dans le film il se trouvait que le personnage devait à un moment rapper et du coup on a coécrit avec Florian les paroles du morceau. On a beaucoup répété, il m'envoyait des vidéos de lui en train de répéter le personnage, de répéter ce morceau de rap etc. Donc il y a une grande complicité. Effectivement il joue un personnage qui est assez compliqué parce que sans rien dévoiler, c'est un personnage qui est à la fois victime et qui devient aussi bourreau en fait à un moment et donc il a réussi à être très émouvant, très touchant dans sa partition, dans ce qu'il apporte au personnage et on a travaillé aussi sur des tics un peu physiques parce que c'est un personnage qui est nerveux donc on a créé tout une sorte de voilà de rapport au corps comme ça d'un personnage qui est un peu abîmé, un peu écrasé et il le fait avec beaucoup de finesse, beaucoup de sensibilité et donc ça a été aussi très précieux pour Billy Blain d'être en jeu avec lui parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, très attentif, très soutenant et il a été un allié très très précieux pour Billy.
Il faut dire que Philippe, le personnage qu'il joue, Florian, est aussi un jeune garçon de 18 ans, c'est le grand frère de Cassandre hein, pour situer un peu l'histoire. C'est aussi un garçon quand même écrasé par l'autorité de son père. Hein.
Absolument, c'est un personnage qui est complètement broyé par le père et qui essaie d'exister là-dedans, qui essaie d'exister en cette famille aussi avec une mère très très envahissante et donc c'est le trajet d'un personnage qui est écrasé par son père et un peu envahi par sa mère qui essaie de suivre un chemin quoi.
Éric Ruff qui joue le père, il a la particule de la comédie française. On comprend très très vite pourquoi. Parce que franchement, il est par moments odieux, flippant, et à la fois il y a aussi une énergie et quelque chose presque d'empathique chez ce personnage qui se dégage envers nous spectateurs qui est hyper fort quoi.
Je suis heureuse de vous entendre dire ça. Effectivement, avec Eric, l'idée c'était pas de construire un personnage très caricaturé du père militaire autoritaire, parce que ça, on en a déjà vu. C'est beaucoup plus complexe aussi que ça pour ce personnage-là. L'idée, le travail avec lui, c'était vraiment de l'amener à le rendre touchant, à le rendre timide par certains côtés, à le rendre un peu maladroit, à créer des moments de complicité, de tendresse avec sa fille Cassandre. Donc il y a eu tous ces moments-là où on a plutôt adouci l'idée qu'il avait. L'idée première qu'il avait du personnage, où on l'amenait sur quelque chose de plus complexe. Et du coup, ça fait aussi évidemment ressortir les moments où il est violent, les moments où il est très autoritaire, les moments où il est presque méchant, enfin voilà.
Et Zabou toujours aussi perché, et ça c'est pour notre plus grand bonheur, elle nous offre des personnages mais tellement hauts en couleur.
Effectivement, Zabou, c'est un personnage très fort pour elle, je crois. Enfin, elle m'a vraiment dit que c'était un des plus beaux rôles de sa carrière. C'est un personnage d'une femme de 60 ans qui est aussi à la fois dans un carcan, on va dire, femme au foyer, sous l'emprise d'un mari très autoritaire, etc. Et en même temps qui a aussi beaucoup de, qui est très fantasque, qui est libre par certains côtés. Donc, elle est à la la fois très drôle et très méchante. Enfin, il y a aussi
qui renferme beaucoup de blessures malgré tout. Et on verra qu'à un moment donné, vers la fin du film, à Slash, on dira pas pourquoi, surtout pas, mais en tout cas, on verra qu'à un moment donné, en tout cas, on comprendra beaucoup de choses.
Effectivement, que ce soit ce personnage de la mère ou le personnage du père, en fait, on comprend qu'il y a des blessures d'enfance derrière qui font qu'ils sont devenus ces personnages, ces gens-là, parce que la vie fait que. Mais effectivement, ces deux personnages, les parents qui ont des blessures et qui vont nous révéler, nous apprendre des choses au fur et à mesure du film.
Hélène, est-ce que vous avez envie d'en rester là avec Cassandre? Ou est-ce que on peut imaginer, si le film marche bien, c'est tout ce qu'on va espérer, évidemment. Moi, j'ai un petit goût de trop peu sur la fin et j'aurais envie de voir comment va évoluer peut-être justement ce personnage, comment il va se sortir de tout ça, avoir des réponses, peut-être encore plus de réponses sur l'avenir de Cassandre. Ou est-ce que vous allez laisser plus justement le spectateur libre à son imaginaire et fermer justement cette parenthèse, ou en tout cas dans vos rêves les plus fous, vous aimeriez en tout cas la retrouver peut-être?
Oui, peut-être. Peut-être que Cassandre est mon Antoine Donnel à moi, en hommage à Truffaut et à Jean-Pierre Léo. Oui, peut-être que c'est un personnage que je vais retrouver. En tout cas, je sens bien que dans ma créativité, je pars beaucoup de la matière première qui est ma vie, de ce que je peux traverser, de ce que je peux ressentir, etc. Donc, pour l'instant, je travaille sur un projet qui est plus sur une histoire d'amour. Je sais pas trop ce que ça va devenir, ce sera un livre ou un film ou une pièce de théâtre, mais je pense que oui, peut-être je me suis trouvé une sorte d'alter ego fictionnel et que on retrouvera ce personnage à l'âge adulte et avec toutes on va dire les séquelles que peuvent amener un traumatisme que vous allez découvrir dans le film, mais tout ce que ça peut amener de complexité de comment on a réussi à être au monde, comment on réussit à vivre quand on a une enfance qui peut être parfois un peu douloureuse. Et oui, je pense qu'à un moment, de toute façon, on retrouvera, si c'est pas Cassandre, si elle s'appelle pas Cassandre, peut-être qu'en tout cas, elle portera des séquelles ou des blessures qui seront de cet ordre-là.
Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec nous. En tout cas, Cassandre, ça sort mercredi au cinéma. Ne le ratez pas, vous allez voir un film d'une grande sensibilité, en tout cas, qu'on va pouvoir découvrir. Et puis, le parcours de cette jeune ado de 14 ans qui va certainement beaucoup vous émouvoir. Très beau casting, Eric Ruff, Zabou Breitman. Il y a Agathe, je crois, Roussel aussi, qui a une très belle participation, qu'on vous laissera découvrir en allant voir le film Florian Le Sueur. Voilà, casting incroyable. Et puis, Guillaume Gouix, qu'il faut pas oublier. Surtout, qu'on adore aussi. Merci beaucoup, Hélène.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Tu sens bon le purin, ça régale.
T'as déjà couché avec un mec, toi ?
Non.
Allez, ne bougez pas dans un instant. On parle de flashback, on parle de Kaboul et on parle du crime de la Tour Eiffel. Dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio.
Y a plus de lit. Finalement, tu vois. J'ai construit ma vie et le vide écran. Les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé. J'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman, maman, maman. J'ai trouvé l'amour. J'ai plus peur de rien et ça me fait comme avant. tu me tenais la main.
C'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Kaboul qui débarque ce soir sur France 2, une série internationale que vous allez pouvoir découvrir avec au casting Jonathan Zakaï, un de nos fidèles, en tout cas toujours avec nous. Bonjour Jonathan, merci d'être là.
Bonjour Alain, mais c'est un plaisir.
Mais écoute, partagez en tout cas, parce que là c'est une série qui est assez incroyable. On va basculer dans l'enfer de Kaboul, où tu y joues le rôle du directeur de la sécurité de l'ambassade de France. C'est un peu la fuite pour tout le monde hein, en août 2021 du côté de Kaboul, quand les États-Unis décident en tout cas de se retirer de l'Afghanistan et que les talibans prennent possession de la capitale. On va y suivre à travers toute une famille, en tout cas des destins croisés, et ce chef de la sécurité, puisque cette ambassade de France est la dernière encore ouverte, et tout le monde va tenter en tout cas de venir s'y réfugier, et ça va pas être de tout repos pour Gilles, en tout cas le personnage que tu joues.
Exactement, bah écoute, t'as résumé ça merveilleusement bien, il faut le dire. C'est un état d'urgence, ils s'attendaient pas, ça je parle même dans la réalité, ils s'attendaient pas à ce que les talibans débarquent aussi vite, et c'est vrai que l'ambassade de France est une des dernières ouvertes, donc forcément elle attire évidemment tous ceux qui... la panique générale en fait de ceux qui sont évidemment en interne, mais aussi des Afghans qui ont envie de fuir et qui ne voient plus que cette ambassade comme lieu de refuge, comme possibilité de s'enfuir. Et mon personnage se retrouve en charge de tout ça, avec toutes les imprévus évidemment de cette évacuation, parce que forcément les talibans ne sont pas fiables, et donc il va falloir prendre des décisions pour arriver à peut-être négocier avec eux, pour arriver à faire évacuer le plus de monde possible et pour sauver le plus de monde de vie possible.
Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quelque chose de très humain chez Gilles malgré tout.
De toute façon, c'est une histoire, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment une histoire humaine, parce que t'es forcément confronté à la souffrance des familles, à tout à coup cette arrivée, ce changement de régime qui évidemment annonce le pire, et on voit aujourd'hui ce qui se passe en Afghanistan, et c'est pour ça aussi que le projet est d'autant plus porteur de choses importantes, c'est que voilà, la condition des femmes, pas que des femmes d'ailleurs, mais surtout des femmes, c'est devenu vraiment presque, enfin les restrictions que les talibans leur imposent, et enfin voilà, c'est impossible à imaginer, donc forcément c'est une histoire humaine, parce qu'il est, il est confronté tout le temps à la souffrance et à son incapacité de sauver tout le monde, mais à son envie de faire au mieux quoi.
Ouais, pour essayer de sauver quelques vies. En tout cas, ça c'est assez bluffant de voir en fait cette série qui a été tournée à Athènes, et pourtant on est plongé dans l'enfer de Kaboul. Malgré tout, au niveau image, c'est absolument magnifique. Alors, faut dire que c'est une fiction à gros budget qui est financée par plusieurs pays différents, par l'Alliance internationale justement dont fait partie France Télévisions. C'est dingue.
Voilà, exactement. Ouais.
C'est dingue de faire partie d'un projet comme ça pour toi.
Bah, c'est merveilleux d'avoir des projets, oui, en effet, de pouvoir participer à des projets comme ça qui sont faits avec justement France Télé International, les producteurs aussi, Fabienne Servan-Schreiber, Mathias Weber, Thibaut Gage, Charlotte Ortiz, qui ont monté tout ça, et puis tout à coup se retrouver avec les deux réalisatrices polonaises, Kasia Adamik, Olga Chajdal, qui sont incroyables, leur chef opérateur qui est dingue, comme tu l'as dit, et puis c'est vrai que le décorateur a passé quelques temps à Kaboul, donc il y a un travail de précision de qui fait que c'est vrai que on avait beau tourner cette série à Athènes, on a l'impression d'être à Kaboul. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai jamais été, donc je peux pas le certifier. Mais enfin, d'après les images d'archives, en effet, c'est assez confondant. Et puis c'est vrai que c'est incroyable d'avoir il y a des Italiens, des Allemands, il y a Eric Dehn de Foria entre autres qui est là aussi pour l'américain, pour la CIA. C'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir faire des projets comme ça où tous les pays se réunissent pour créer une œuvre collective pour un sujet aussi fort et important en plus. C'est rare et c'est vraiment, j'en suis vraiment très fier.
Alors moi j'ai eu la chance de le voir en VOST, hein, ce qui a permis de te voir jouer en anglais.
Ok.
Donc tu t'es doublé toi-même, rassure-moi.
Oui, évidemment. Mais les acteurs français, on s'est tous doublés nous-mêmes. Oui, non.
Ah, c'est chouette. Ouais. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand tu t'es préparé peut-être au rôle? Est-ce que tu as lu des choses? Est-ce que tu as regardé justement des reportages pour te préparer un peu à tout ça? Parce que tout est un peu inspiré quand même d'histoires vraies dans cette série. Donc, on peut se documenter assez facilement parce que c'est quand même relativement proche de nous, moins dans le temps en plus.
Exactement. Il y a beaucoup de documentaires assez précis, beaucoup d'images d'archives précises, très, très précises aussi. J'ai lu le livre de Mohamed Bida, 13 nuits, qui va d'ailleurs être adapté au cinéma. Il y a aussi le livre de David Martinon, l'ambassadeur. Il y a le documentaire qu'il a fait d'ailleurs aussi. Et donc, à travers ça, on a vraiment les réflexions, pratiquement jour après jour de cette évacuation, par les livres et par les documentaires. C'est vrai que c'est assez riche. Enfin, voilà, c'est un fait historique assez récent. C'est une grosse responsabilité pour nous, les acteurs, de jouer ces rôles-là. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé le plus, je crois, c'est le courage de ces gens, parce que on est jamais complètement, même si c'est vrai que c'est des gens qui sont, enfin mon personnage par exemple dans la sécurité ou d'autres sont censés être préparés à ça, mais enfin bon là c'est vraiment des cas extrêmes, c'est les missions d'une vie quoi, je veux dire ça aurait pu être complètement échoué, donc c'est vrai que ça tient à peu de choses, donc c'est vraiment des héros ordinaires qui sortent de l'ordinaire quoi, c'est clair.
Et une série qui résume assez bien le désordre mondial qui règne hein, finalement.
Ben, c'est vrai que cet événement annonce ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un retrait des États-Unis clairement qui s'est passé là-bas, mais qui est en train de se passer malheureusement avec l'Europe, malheureusement avec d'autres pays. Donc c'est vrai que c'est déjà annonciateur de cette époque vers laquelle on va
inexorablement.
Main dans la main. Ouais, voilà, exactement. Voilà, et puis c'est vrai que je sais que les producteurs avaient mis la série dédiée aux femmes afghanes et ils ont malheureusement, au fur et à mesure, ajouté sur le générique de fin les restrictions parce que c'est comme si elles s'accéléraient de plus en plus. Je veux dire, on a l'impression là-bas qu'elles ne peuvent plus que rester chez elles toutes seules, sans écouter de la musique, sans faire. Enfin, c'est même plus ce qu'elles ont le droit de faire en fait. C'est hallucinant, quoi. Voilà, il y a pas de mots en fait. Hein. C'est
totalement dingue de vivre sans 2025. C'est clair.
Exactement.
Voilà. Jonathan, parlons de choses un peu plus gaies, des projets. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent pour toi en 2025 en théâtre, cinéma, télévision? Je suis sûr qu'il y a plein de belles choses.
Il y a un très très bel unitaire qui s'appelle Résistante de Renaud Bertrand avec Lynn Renaud, Béatrice Faquet, Elodie Navarre, que j'ai vu qui est vraiment, vraiment une claque. Franchement, c'est très très beau. Alors, je suis désolé, je reviens vers la guerre, hein, malheureusement, parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre avec deux périodes, c'est-à-dire les années 70, où les personnages, il y a des transmissions entre les deux époques et les personnages. C'est très fort, vraiment très très bel unitaire. Et puis là, je suis en tournage sur la nouvelle série d'Éric Rochand, mais là, je peux pas trop en parler. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire, donc je t'avoue que je voilà. Mais enfin, c'est assez génial. Voilà.
Ça s'annonce un gros événement. C'est tout ce qu'on peut dire déjà. J'en sais quelques Exactement. Petites choses et ça s'annonce un gros événement voilà. En tout cas.
Exactement. Et non, ça va être assez dingue. Voilà. Donc bon. ça c'est génial.
Bon, ben, ça sera l'occasion que tu reviennes en tout cas en parler dans Chut, on écoute la télé au moment. Bien évidemment, on te retrouve en tout cas dans Kaboul. C'est les deux premiers épisodes à ne pas manquer ce soir sur France 2 à 21h10. Merci à toi, Jonathan.
C'est moi qui te remercie, Alain. Merci, c'est toujours un plaisir.
On se dit à très vite en tout cas et on va se quitter tout de suite avec la bande-annonce. Kaboul, c'est ce soir sur France 2.
Les talibans sont entrés dans Kaboul.
Viens nous rejoindre à l'ambassade de France.
Ces Afghans, la France compte pas les laisser tomber.
C'est moi le capitaine de ce navire, je reste.
J'ai besoin que tous ces gens montent dans cet avion tout de suite.
Daesh prépare des attaques de grande ampleur pendant l'évacuation.
Quoi qu'il arrive, je n'abandonne jamais.
Partir ou mourir. Kaboul, votre nouvelle série événement, lundi 31 mars à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Marie au premier regard. Vous savez, ce soir, épisode inédit mais suivi d'une toute nouvelle émission Marie au premier regard. Nouveau rendez-vous avec l'amour. 6 anciens de Marie au premier regard qui n'ont pas réussi leur mariage dans l'émission vont retenter une sorte de seconde chance. Et parmi ces candidats, Ludivine est avec nous. Bonjour Ludivine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, nouveau rendez-vous. Rendez-vous avec l'amour, on va donc te découvrir ce soir évidemment à 23h20, c'est un petit peu tardif pour cette espèce de seconde chance. Alors quand on a vécu, on va dire, un mariage chaotique comme ça s'est passé l'année dernière, est-ce qu'on hésite un petit peu avant d'y retourner ?
Alors quand on a vécu un mariage comme le mien, non, on n'hésite pas quand on nous propose ce type de projet d'expérience, parce que justement on a tellement appris de sa première expérience qu'on veut ensuite mettre en application pour quelque chose, un nouveau rendez-vous justement avec l'amour.
Et quoi de plus beau quand on se voit accorder une deuxième chance ?
Exactement, c'est ce que j'aurais souhaité sur mon premier mariage, donc j'ai saisi bien évidemment avec grand plaisir cette occasion.
Alors Marie, au premier regard, c'est une famille aujourd'hui, c'est vrai que vous retrouvez tous. Comment ont réagi les autres quand ils ont su que toi par exemple, t'allais participer à cette émission ?
Alors oui, Marie au premier regard, c'est une grande famille avec beaucoup de participants.
Et qui s'agrandit chaque année.
Et qui s'agrandit encore là, effectivement. Et donc c'est aussi des belles amitiés et beaucoup de soutien de la part de mes amis, dont certains font d'ailleurs aussi partie du programme avec moi. Donc beaucoup de bienveillance et de soutien.
Alors quels sont ceux justement qui vont participer avec toi à cette émission ? Je crois qu'il y a Jefferson, si je m'abuse, il y a Cécile.
Mm-hmm. Alors il y a aussi Marie qui faisait partie de ma saison, la saison 8. De la saison 5, donc il y a Yannick et Cécile. Saison 7, il y a Jefferson. On a aussi Justin de la saison 1.
C'est quoi le concept ? Raconte-nous en quelques mots.
Alors, le concept, il a été diffusé des liens sur lesquels des candidats pouvaient venir déposer des lettres ou des vidéos que ensuite nous, on allait du coup recevoir dans un certain nombre et choisir plusieurs profils en fonction de leur écriture et de nos ressentis pour les convier à des rendez-vous. Voilà. À la suite donc de ces rendez-vous, on choisit donc deux personnes pour aller voir dans la vie commune comment une relation peut naître.
C'est une sorte de mélange un peu entre l'amour et dans le pré et marié au premier regard finalement.
Exactement. Voilà. C'est un petit peu le concept de l'amour et dans le pré, mais avec marié au premier regard.
J'ai bien aimé moi la diffusion de ton portrait justement pour l'émission en disant vous m'avez connu, je me suis marié au premier regard. Et bien là, on va se connaître un peu avant quand même. Ce qui est mieux, c'est vrai que quand on vit une expérience comme ça, c'est une expérience absolument folle et dont on ne peut pas ressortir indemne. On ne peut pas oublier une expérience comme celle-ci.
Non, on ne peut pas oublier une expérience comme celle-ci et on ne veut pas oublier une expérience comme celle-ci. Elle nous constitue, c'est quelque chose qu'on a vécu à l'intérieur de nos tripes. C'était très intense, c'était très émotionnel. Moi, j'aime dire qu'on a gagné 5 ans de maturité et d'apprentissage sur soi en une année d'expérience. Il y a un avant et un après, en tout cas.
Alors, moi, je voudrais justement qu'on alerte un petit peu, parce que le fait de t'avoir, je voudrais qu'on se serve un peu de toi là-dessus, pour alerter sur les dangers des réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire que t'as mangé quand même très cher l'année dernière. Quand on te connaît dans la vie, moi qui ai la chance de te connaître maintenant vraiment dans la vie un peu plus, on sait que t'es pas du tout comme ça. Et aujourd'hui, il faut vraiment faire attention quand vous écrivez sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des personnes qui lisent derrière, ça peut blesser. Faut pas oublier que c'est quand même des êtres humains qui sont là et on fait des émissions comme ça. Enfin, les chaînes font des émissions comme ça. Et vous y participez pour avant tout divertir. Je pense que ça, c'est essentiel aussi de le rappeler.
Alors, quand on y participe, on n'a pas encore cette conscience que c'est une émission de divertissement. Nous, on y va avec nos tripes, avec notre authenticité, avec toutes nos valeurs. Et ensuite, oui, la diffusion est une autre expérience dans l'expérience. On s'y attend absolument pas et effectivement, en fonction de comment va être apporté et résumé notre histoire, cela peut susciter des réactions. Alors chacun est libre de son avis, mais toujours en toute bienveillance, même quand l'avis est négatif. Et parfois, malheureusement, il y a aussi beaucoup de méchanceté. C'est pour ça que là, par exemple, la saison 9 de Marié au premier regard a été lancée. Et j'aime soutenir aussi les nouveaux candidats qui aussi, eux, subissent un petit peu parce qu'ils arrivent un petit peu novice et puis ils vont découvrir ce que c'est aussi ces réseaux sociaux. On en ressort la tête levée, on en ressort grandi, mais c'est vrai que émotionnellement c'est intense et dur et il faut être solide moralement, ouais, mentalement.
Alors est-ce que t'as déjà tes chouchous dans cette nouvelle saison ? Dis-moi.
Ah bah ma chouchou numéro 1 bien sûr sera Clémence qui a fait déjà ma saison et qui là du coup a aussi cette nouvelle chance puisqu'elle avait eu un nom à l'époque.
Mais toujours à l'aveugle elle.
Bon toujours à l'aveugle certes mais bon je croise les doigts pour elle que cela ait fonctionné. Et après oui j'apprécie pour échanger avec les candidats actuels. Ils sont tous singuliers et ils ont tous des histoires différentes, mais voilà, ça reste leur histoire.
Quand tu vois cette nouvelle salve, justement, qui va se marier à Gibraltar, qui est en train de vivre les mêmes émotions que seul vous êtes capable de comprendre, qu'est-ce que tu ressens devant ta télé quand tu les vois? Il y a des fois, t'as envie de leur parler à travers ta télé, t'as envie de leur dire des choses.
Alors oui, effectivement, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le contact se fait aussi bien dès le début, c'est parce qu'en fait, seuls nous savons ce qui s'est passé à l'intérieur de notre corps et à l'intérieur de notre cœur et ses vibrations. C'est très intense émotionnellement, il faut le vivre pour vraiment avoir un vrai avis en dehors du téléspectateur. Et ouais, de voir ce que eux vivent, je me dis j'y étais, je comprends. Ça me rappelle aussi mon mariage parce que ça restait un très très beau jour, merveilleux jour. Et ouais, c'est quelque chose de beau et je leur souhaite plein de belles choses. Et oui, de les voir, bah je réagis derrière ma télé. Alors je le mets en story pour rigoler avec ma communauté aussi, puis un petit peu rebondir, ouvrir les débats. Parce que c'est fait pour aussi, hein. C'est une émission qui est fait pour. Mais on en parle aussi nous en privé et je trouve ça super intéressant.
Oui, parce qu'il y a de la méchanceté sur les réseaux sociaux, oui, mais il y a aussi beaucoup d'amour que tu reçois aujourd'hui au quotidien. Tu as toute une fanbase maintenant qui s'est constituée autour de toi, à qui tu parles régulièrement et de laquelle tu es très proche. Ça aussi, hein, ça fait partie un peu de cette famille MAPA, hein, les fans de l'émission qui vous suivent dans la bienveillance.
Tout à fait. Alors oui, il y aura toujours des haters, mais comme dans la vie en général, mais ça reste... honnêtement, une infime partie de l'entièreté des gens qui peuvent suivre ma PR et ensuite aimer des couples et des personnes individuellement. Et c'est vrai que oui, j'ai une communauté, alors essentiellement quand même de femmes bienveillantes que je remercie parce que c'est des échanges quotidiens, de soutien, de partage, de petites phrases, de petits mots comme ça. Et il y en a qui sont là depuis le début. Et ça, c'est hyper agréable. Et que ça soit même ici, dans notre belle ville de La Rochelle, que j'ai plaisir à croiser régulièrement sur le port ou au travers des réseaux sociaux, voilà, c'est, ouais, ça reste quelque chose de très très positif.
Voilà, soyons bienveillants en tout cas. Et puis on va effectivement vous suivre tous dans cette aventure. Nouveau rendez-vous avec l'amour. Jefferson, Cécile, Yannick, toi bien évidemment, j'en ai oublié deux.
Marie et Justin.
Voilà, Marie et Justin, voilà tous les six. On va voir évidemment comment va évoluer tout ça. On t'espère plein de belles choses évidemment.
Merci beaucoup, on croise les doigts.
On en a pour quelques semaines là?
Oui, on en a pour quelques semaines.
Bon, on va voir comment ça va évoluer tout ça. On se fait un petit bilan à la fin.
Avec grand plaisir.
Allez, merci en tout cas Ludivine d'avoir été avec nous. Nouveau rendez-vous avec l'amour, c'est ce soir et c'est à 23h20 sur M6, juste après Marié au premier regard. À très bientôt.
Merci, bonne soirée, bonne diffusion. Oh,
chère. Ils ont juste à trouver l'amour.
Il y a bien quelqu'un d'autre comme moi qui existe.
J'ai envie de savoir ce que c'est, avoir une vie de famille.
J'ai pas envie de vieillir seule.
J'ai vraiment envie de rencontrer la bonne personne.
J'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire, j'ai envie de me poser.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Flashback qui débarque cette semaine sur TF1, nouvelle série, événement avec Michael Youn et Constance Gay, deux acteurs qu'on adore, mais produit aussi par un producteur qu'on adore, Anthony Lancré, qui est avec nous. Bonjour Anthony.
Bonjour, merci beaucoup, merci de nous recevoir.
Merci d'être avec nous, la créatrice de la série Cléa Constantine qui est avec nous. Bonjour Cléa.
Bonjour, merci beaucoup.
Merci d'être là et puis à la production aussi productrice artistique Lola Manaï qui est avec nous. Bonjour Lola.
Bonjour, merci.
Merci d'être là tous les trois. Qui a eu cette idée dingue? Moi ça me rend fou les histoires où on voyage dans le temps. Alors qui c'est qui est l'instigateur de tout ça?
Alors c'est un projet qu'on a créé, dont on a posé un concept avec mon associé Pierre Logier. Et il y a très longtemps, je pense qu'on a été tous les deux... traumatisé dans le bon sens par Retour à le futur quand on était petit. Moi c'est le premier film que j'ai été voir au cinéma et j'en parle je pense trois fois par jour au bureau. Et voilà, on a eu envie de jouer avec ces codes là avec tous ces films et ces séries de voyages dans le temps, Camille Redouble, Life on Mars, tout ça. Et il y a aussi des influences comme les Ripoux qu'on aime beaucoup, les films de Bebel, tout ça. Et on a eu envie de faire du polar vintage aussi, en se disant tiens, ça pourrait être intéressant de revisiter certains faits de société à travers le prisme de quelqu'un qui est de 2024, qui revient en 90 et l'époque de 90. Et donc on a posé ça, on a mis du temps à convaincre des diffuseurs de nous faire confiance. Finalement TF1 nous a dit chiche Et il nous fallait quelqu'un pour créer la série, vraiment, parce qu'il y avait vraiment un concept, mais il n'y avait pas d'épisode, il y avait les personnages à développer et compagnie. Et
les personnages et tout.
Clélia, qui a créé plusieurs séries par le passé, qui est arrivée sur le projet.
Alors Clélia, comment on... ça s'est construit tout ça, avec ce personnage de Elsa et de son père Jocelyn, assassiné 30 ans plus tôt, et elle va retourner dans le passé pour essayer d'empêcher évidemment cet assassinat, et va se retrouver dans des situations des fois rocambolesques, avec de la comédie, avec du policier, il y a un petit peu de tout effectivement dans cette série.
Alors déjà, je pense que on peut dire que je partage avec Anthony cette passion pour les films des années 80-90, donc déjà il y avait l'envie à la base. Et ensuite après, je pense qu'il y a eu deux aspects. D'abord, c'était trouver ces personnages et trouver le juste équilibre entre la limite de jouer avec les codes, jouer avec la limite, les contrastes entre une époque, entre les années 90 et les années 2020, et d'infuser tout ça. Et pour moi, ce qui était assez important aussi, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, le dialogue intergénérationnel est assez difficile. Et je trouvais ça intéressant de forcer ce dialogue intergénérationnel. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu parti de la création des personnages et parti de cette volonté d'un mec de 45 ans, blanc, hétéro, dans les années, qui est flic dans les années 90, et puis d'une femme des années 2020 qui revient et puis qui bouscule un petit peu sa vision du monde. Voilà.
C'est pas évidemment, c'est que c'est sa fille. Voilà, c'est ça qui crée aussi tout ça. Productrice artistique, ça veut dire quoi, Lola, quelque part? Quelle est la tâche d'un producteur artistique sur une série? C'est suivre la production tout au long cours, le développement des personnages aussi?
C'est superviser toute la dimension artistique, de s'assurer de la continuité. C'est hyper important parce que, comme vous le savez, sur une série, il peut y avoir des réalisateurs différents. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une continuité entre différents blocs d'épisodes réalisés par différents réalisateurs. Ça va être des choix. Au départ, moi, je participe à tout ce qui est casting, décor, costume, s'assurer que tout ça se fait en harmonie et bien sûr dans la continuité de ce qu'a demandé la chaîne au départ, donc tout le dialogue avec la chaîne, que c'est coordonné et que c'est dans la continuité de ce que la chaîne a demandé, nous a commandé, parce qu'évidemment ils ont des attentes et voilà.
Est-ce que Michael et Constance ont été au-delà des attentes?
Ah bien sûr, oui. Et ça c'était ça rejoint ce que disait Clélia à l'instant sur retrouver le juste équilibre entre le binôme, faire en sorte que Jocelyn il soit border mais qu'il aille peut-être pas trop loin, qu'on ait de l'empathie pour ce personnage un peu limite, mais pareil aussi pour Elsa, qu'elle soit pas trop donneuse de leçons, qu'elle vienne avec son regard d'aujourd'hui mais pas trop moralisatrice, et qu'elle reste notre personnage point de vue, qu'elle nous soit sympathique, qu'on soit en empathie avec ce qu'elle vit. Et ça, c'est vrai que Michael et Constance, ils ont réussi à merveille à faire ça, parce que Michael, il est irritant, en même temps, il est hyper attachant,
Constance. Grattant, j'allais dire poil à gratter, mais bon, ça, on le connaît pour ça aussi.
Exactement, et Constance, elle a quelque chose d'hyper sympathique qui fait que même si elle nous donne un peu la leçon, on a envie d'être avec elle et de la suivre. C'est vraiment une héroïne, quoi. Donc là, vraiment, on est très reconnaissant de ce casting-là. Ouais.
Quand vous avez vu la première fois la série toute montée, parce que j'imagine vous avez vu les boules, les rushs au fur et à mesure que ça arrivait, mais une fois que ça a été tout monté avec une bande son qui est géniale en plus, qui nous rappelle tellement de souvenirs à tous, qu'est-ce que vous avez dit? Anthony.
Nous, on a vu des étapes un peu plus intermédiaires. Clélia, pour le coup, a découvert la série un peu plus travaillée. Et donc, c'est intéressant d'avoir...
Moi, j'ai trouvé ça génial. Non, mais franchement, en fait, c'est... Alors déjà, pour une autrice, c'est vraiment magique. En fait, c'est-à-dire, ça commence par une idée sur le papier. Puis, ça se développe dans une histoire. Puis, ça se développe dans un dialogué. Puis il y a effectivement ce moment de lecture avec les comédiens, puis il y a le tournage, et en fait à un moment, paf, on a un produit fini qui, en général, quand tout se passe bien, dépasse ce qu'on a écrit. Et ça, c'est magique, parce que je pense que vraiment les gens ne soupçonnent pas à quel point l'écriture, et en particulier en télé, c'est vraiment une œuvre collective. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne, en fait. Il y a des auteurs, des producteurs, des réalisateurs, des comédiens. Et si on travaille pas tous ensemble,
c'est foutu. Ça, c'est clair. Dernière question, à qui m'intéresse beaucoup, parce que je sens que 6 épisodes, moi, ça va pas être assez. Est-ce que vous avez envie, en tout cas, est-ce que déjà une saison 2 est dans les rangs? Anthony.
On travaille dessus, on a fait ce qu'on appelle un gros cliffhanger à la fin, Et donc oui, on se prépare, on a plein d'idées, il y a un atelier d'écriture qui est déjà lancé, mais ça va dépendre effectivement de l'accueil du public. Si le public est au rendez-vous, bien sûr qu'on sera, on va réenfiler la montre et on va essayer de repartir
dans le temps.
Dans le temps.
Avec la DeLorean et compagnie. Exactement. Retour dans le futur. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci infiniment. On va écouter la bande-annonce et puis on va revenir juste après avec Constance Gay qu'on va avoir grand plaisir à retrouver justement pour nous parler de son rôle. Merci à tous les trois. À très vite.
Retour en 94. La mort de mon père. Tout est lié. Et c'est cette montre, la clé de l'histoire.
Beyoncé, c'est pas ce qu'elle cherche, c'est pas ce qu'elle veut, mais elle est certainement pas celle qui a dit qu'elle est.
Soit elle n'existe pas, soit elle vient d'ailleurs.
Tu nous caches quelque chose.
C'est quoi ce bordel?
C'est une excellente flic. C'est tout ce qui compte.
Mon père, qui aurait pu lui en vouloir à ce point?
Pour qu'il soit trop tard, il faut agir.
Toi-même, vos objets ne peuvent pas cohabiter dans le même endroit.
Non, j'ai mal.
De même, personne non plus.
Allez, on continue de parler de flashback. Vous avez entendu la bande-annonce à l'instant et elle nous a rejoint. Oui, elle est là, Constance Gay, une habituée de l'émission qu'on a grand plaisir à retrouver. Bonjour Constance.
Bonjour.
Merci d'être là. On va parler de Elsa, évidemment. Qu'est-ce qui t'a plu en premier chez elle?
C'est la partie femme et la partie enfant. La partie petite fille qu'elle reconvoque dès qu'on lui parle de son papa. Et cette femme moderne, indépendante, mature, intelligente. Et c'était jouer ces deux aspects-là du personnage.
Et puis surtout qu'il va se retrouver du coup en 1994 pour tenter de sauver son père, qu'elle sait qu'il se fait tuer. Mais est-ce que de retourner dans le passé ne va pas bouleverser le futur? C'est ça aussi tout l'enjeu de la série. Mais en tout cas, il y a une bande-son, il y a plein de choses qui se passent. C'est assez dingue. Et elle va commencer en tout cas à aller l'aider dans ses enquêtes en 1994. Alors est-ce que ça va pas bouleverser justement le futur? Parce que c'est ça qu'on risque en changeant le passé.
Si on bouleverse l'avant, on bouleverse l'après. Normalement, c'est l'ordre des choses. Donc, est-ce qu'elle va le modifier en bien ou est-ce qu'elle va le modifier en mal ou est-ce qu'elle aurait dû ne rien faire et laisser comme les choses auraient dû se faire? Ça, eh bien, la suite le sait, mais pas nous.
Qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais eu ce pouvoir, toi?
Revenir en arrière?
Ouais, revenir en arrière ou alors laisser les choses se faire, justement.
En termes de quoi? Moi, Elsa ou moi, Constance Gay?
Toi, Elsa.
Moi, Elsa, bah, mon papa s'est fait assassiner, je ne réfléchis même pas, je retourne dans le passé et je n'acceptant pas ce deuil, je suis obligée d'agir puisque c'est une femme d'action. Donc, elle ne peut pas se contenter de rester sur une mort non élucidée de son papa chéri. Ça n'est même pas envisageable. Donc, évidemment, elle retourne dans le passé pour essayer d'agir.
Elle va se retrouver face à un père quand même différent de ce qu'elle pouvait connaître à la maison. Très poil à gratter, très rentre-dedans, très macho. Il est énorme, Michael.
Ben, en fait, Jocelyn, quand j'ai 6 ans, il me regarde avec les yeux du papa qui regarde sa petite princesse chérie. Et quand Elsa Le Tellier en a 36 et qu'il sait pas que c'est sa fille, il lui mène une vie d'enfer. On parlait des yeux de l'enfant vis-à-vis de son papa, mais lui, ses yeux de papa sont complètement différents vis-à-vis de sa fille de 6 ans et de 36 ans parce qu'il sait pas que... Il sait pas que c'est sa fille. Voilà, moi c'est ce que j'adore aussi dans le personnage de Michael, c'est quand on parle de sa fille, c'est l'écorché vif. Quand on parle des autres nanas, il en a absolument rien à faire. C'est ça qui est beau.
Et il va pas voir d'un bon œil l'arrivée d'Elsa, évidemment, dans sa vie en 1994.
Ah bah non, il voit une jeune femme qui débarque et qui lui apprend la vie, qui lui apprend comment mener ses enquêtes, comment parler, comment voir le monde. Jocelyn, non, il est pas content, non. Non, il est pas du tout content. Il va tout faire pour qu'elle dégage.
Et à la fois, c'est une femme de 2024 qui débarque en 94 avec toute l'évolution qu'a pu connaître la société. C'est ça que je trouve aussi hyper intéressant parce que on voit, mine de rien, grâce à cette série, que les mentalités ont évolué quand même un peu, malgré tout, un peu.
Bah, c'est en cours, mais je pense que le temps fait qu'il y a évolution. Enfin, pour moi, c'est un peu synonyme. Et que oui, heureusement que ça change et que ça continuera à changer et que notre monde va évoluer, donc ça changera. Enfin, c'est un engrenage, en fait. Oui, les choses vont changer et qu'il faut accepter et aimer le changement dans ce qu'il a de pire et de ce qu'il a de meilleur et accepter l'évolution. Et oui, elle arrive avec 30 ans d'avance, donc elle a vu plus de choses, elle a eu plus de recul, je dirais, et elle amène ses idées dans ce passé où elle comprend pas comment ça fonctionne, quoi. Je veux dire, en 2024, elle est flic, elle est acceptée partout, il y a pas de questions à se poser, et là, elle est ramenée au fait que ce soit une femme jeune constamment. Elle l'insupporte, puisque c'est pas la normalité des choses, enfin, à mon sens.
Et en plus, elle est bien en dedans, donc c'est ça qui est hyper plaisant. Et à la fois, là, c'est fêlure, parce qu'on la voit, t'as beaucoup de scènes d'émotion aussi. Et moi, j'ai trouvé une très belle scène, c'est quand tu te retrouves pour la première fois face à toi, petite. Et très belle, cette scène.
Bah ouais. Je sais pas si on a chacun pensé à ça, mais c'est vrai que quand on parle souvent d'enfant intérieur, tout ça, mais s'imaginer nous
qu'est-ce
voir...
Qu'on dirait à l'enfant de 5 ans qu'on était, qu'est-ce qu'on lui dirait aujourd'hui si on le rencontrait? Bah toi, t'as cette possibilité-là dans la série.
Bah moi, j'aimerais... Moi, si je rencontrais Constance Gay Petite, je dirais « Eh ma poule, ça va super bien se passer !» Je dirais ça, en fait. Ouais, je dirais ça.
Bah ouais, tu feras des flashbacks et tu te retrouveras face à face à Marianne James. Franchement, il y a pire dans la vie, hein.
Ouais, bah, exactement. En fait, c'est vrai que je joue qu'avec les gens que je regardais à la télé petite. C'est quand même trop génial, quoi. Je viens de tourner avec Pierre Arditi, j'ai tourné avec Michael Youn et ma maman, c'est Marianne James dans une autre série, franchement.
Tu vas trouver le temps encore avec 10 épisodes de face à face par an, et si Flashback continue et s'installe dans la durée avec 6 ou 8 épisodes par an. Mais que va faire Constance Gay? Elle va pouvoir prendre des vacances encore un peu ou pas?
Bon, elle va aller à la campagne monter ses chevaux, elle va prendre des vacances, elle va tourner d'autres trucs, elle va monter des projets, elle va faire plein de trucs. Il y a 365 jours dans une année, c'est beaucoup quand même.
Quelle soif de vivre, c'est beau. Je trouve ça très beau. Constance, c'est quoi ton plus beau souvenir sur ce tournage?
Mon plus beau souvenir, j'en ai eu énormément, mais je crois que mon plus beau souvenir, c'est la... Vous l'avez pas vu, mais dans l'épisode 6, il se trouve qu'il y a une scène dans un cinéma... Et qu'on a une scène d'émotion avec Michael, et on a joué ensemble, et il y a eu un peu un moment de très joli. Et il s'est passé quelque chose d'assez merveilleux, et là, comme ça, brûle pour point, je pense à ça. En me disant vraiment, ah ouais, c'est cool quand on joue ensemble. Voilà.
Et vous la verrez dans 2 semaines, du coup, maintenant. Voilà. Constance, merci d'avoir été avec nous. Flashback, ça débarque cette semaine sur TF1 pour notre plus grand plaisir. On va découvrir, évidemment, cette série avec grande impatience. Merci à toi, et à bientôt.
Merci beaucoup, on écoute la télé.
Pour un nouveau face-à-face, j'espère aussi.
Ah, je veux
dire,
c'est
à très
ça,
vite.
Ça arrive. Merci.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Je peux pas me concentrer quand je les entends se marrer. Pas fini ma journée, je dois rendre un tas de projets. Le train-train quotidien, mais trop boulot, y'a pas moyen. Et si je lâche pas prise, je suis à 2 doigts de la crise. J'ai des soucis plein la tête, mais mon cœur lui est à la fête. Un pouce sans laisse, nos corps s'embrasent. 3, 4, c'est si bon quand on lâche. J'ai des envies que je rejette, et mon cœur n'en fait qu'à sa tête. Quand on se lasse, que tout nous tracasse. 3, 4, c'est si bon quand on lâche. C'est si bon quand on lâche. C'est juste un équilibre. Je suis toujours dans l'excès. Avec moi c'est tout ou rien. Quand est-ce que je me sens vivre? Demain ce sera trop tard, aujourd'hui nous appartient. Mais y'a cette voix qui me répète que c'est pas raisonnable. La vaisselle se marie, puis de toute façon je sais pas quoi mettre. Autant de questions, des notifications. Ce soir la pression, ça reste à la maison. J'ai des soucis, plein la tête, mais mon cœur lui est à la fête. Quand on s'en lasse, mon corps s'embrase. 3, 4, c'est si bon quand on lâche. J'ai des envies que je rejette, et mon cœur n'en fait qu'à sa tête. Quand on se lasse, c'est si bon quand on lâche. C'est si bon quand on lâche. C'est si bon quand on lâche. Demain quand j'ouvrirai les yeux, je me sentirai légère. Oh oui, je me sens mieux. Compteur à zéro. J'ai des soucis plein la tête, mais mon cœur lui est à la fête. Quand on s'en lasse, mon corps s'embrase. 3, 4, c'est si bon quand on lâche. J'ai des soucis plein la tête, mais mon cœur lui est à la fête. Quand on s'en lasse, mon corps s'embrase. 3, 4, c'est si bon quand on lâche. J'ai des envies que je rejette, et mon cœur n'en fait qu'à sa tête. Quand on se lasse, que tout nous tracasse. 3, 4, c'est si bon quand on lâche. C'est si bon quand on lâche.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré au téléfilm Le Crime de la Tour Eiffel qui sera diffusé donc samedi soir sur France 3. Dans un instant, on recevra Flore Bonaventura pour en parler, alias Laura Giordano. Mais tout d'abord, on va en discuter avec le réalisateur Julien Seri qui a fait des images absolument fantastiques de la Tour Eiffel. Mmh. Bonjour mon cher Julien.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien. Je sais qu'on t'a en direct de la Martinique où tu vas démarrer jeudi le tournage de la toute nouvelle saison de Tropique Criminel où on va te rejoindre d'ailleurs pour une émission exceptionnelle à tes côtés. Justement, ça va être absolument dingue. Et Julien, je dois t'avouer que tes images m'ont vraiment... c'est tellement beau ce que t'as fait autour de la Tour Eiffel et qu'il y a une qualité d'image. Voilà, il y a dû y avoir un chef opérateur. Il y a un travail vraiment qui a été incroyable là-dessus.
Ouais, c'est le chef opérateur avec qui je travaille depuis des années. J'ai fait ma première pub avec lui il y avait 25 ans. Il s'appelle Michel Taburio. C'est le technicien avec qui je travaille le plus depuis que je suis un jeune homme, un jeune réalisateur. Et voilà, c'est un indispensable dans ma carrière de réalisateur.
C'est le rêve de tout réalisateur un jour de tourner à la Tour Eiffel ou pas? Ou est-ce qu'on se dit c'est quelque chose un peu d'inaccessible? Ou justement, c'est un challenge de savoir comment justement bien la filmer, comment tourner les images. Comment t'as appréhendé ça?
Oui, c'est vrai que c'est un endroit mythique. Donc évidemment, depuis que je suis gamin, j'aurais adoré, je me disais, tu vois, c'était un endroit incroyable de Paris. Maintenant, c'est vrai que c'est très très cher de tourner à la Tour Eiffel. Donc je t'avoue que j'ai jamais écrit de projet qui pouvait s'y tourner. Donc lorsque mon agent m'a parlé de ce projet, il m'a dit, voilà, il y a un téléfilm, un polar qui se passe à la Tour Eiffel, il y aura environ 6 jours de tournage et tout. Je me suis dit, bon, il faut y aller. C'est quasiment unique dans une carrière d'un réalisateur. Donc le scénar était plutôt chouette. Je me suis dit fonçons, on va filmer cette grande dame de fer et filmer Paris vidéo. Donc c'est bien.
Et avec une enquête, puisqu'on va être basculé au 14 juillet, au lendemain du 14 juillet, où le cadavre d'un jeune youtubeur spécialisé dans les vidéos sur l'histoire, justement, est retrouvé au premier étage de la Tour Eiffel. Et c'est une enquête qui va nous refaire basculer également dans le passé, jusque lors de la Seconde Guerre mondiale.
Exactement. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir revisiter un peu d'histoire et d'y mettre un polar et une tension vraiment d'aujourd'hui avec des petits moments d'action qui n'étaient pas écrits au scénario mais qu'on a voulu développer. Donc on a voulu que ce soit le plus riche possible et le plus complet possible.
Eh ben écoute, c'est réussi. En tout cas, comment t'as choisi justement tes personnages, celui de Laura et de Mathieu sont incarnés par Benoît Michel et Flore Bonaventura. Tu avais déjà travaillé avec eux?
Alors j'ai déjà travaillé avec Benoît Michel puisque moi j'ai déjà fait 2 saisons de la série Astrid et Raphaël où il a le premier rôle masculin.
Et oui.
Flore, je t'avoue que c'est une comédienne avec qui ça fait longtemps que j'avais envie de travailler avec elle et donc quand tout d'un coup le personnage de Laura Giordano est arrivé, elle a été assez vite dans les pensées de tout le monde, que ce soit de la production ou de la chaîne, et on a été ravis qu'elle accepte aussi rapidement. Donc non, j'ai été très gâté niveau casting sur ce tournage.
Ah oui, Wendy Nieto, Alyosha Itovich aussi, la fille de Clovis Cornillac, Alice Cornillac, on dirait sa maman, elle est juste bluffante, Alice aussi.
Ouais, c'est vraiment ce que je connais Alice depuis Alice et Lily, les 2 sœurs jumelles, depuis qu'elles sont toutes petites, puisque j'ai tourné Scorpion avec leur papa en 2006. C'est ces 2 jeunes femmes que j'ai vu grandir et Alice, depuis qu'elle veut devenir comédienne, je trouve qu'elle a une énergie, elle a un charisme assez incroyable et elle a bluffé tout le monde sur le plateau dès le premier jour.
Alors c'est ta semaine quand même, parce qu'il faut savoir que l'épisode de Tropique Criminelle qu'on verra justement vendredi a été réalisé aussi par toi, ce début de saison 6, les 4 premiers épisodes. Eh bien c'est toi qui es aux commandes aussi des épisodes qu'on est en train de voir en ce moment.
Ouais, c'est vrai qu'en ce moment je tourne beaucoup, donc évidemment je suis aussi beaucoup diffusé, donc c'est vrai que j'ai de la chance, c'est une belle période pour moi. Moi qui aime être sur un plateau comme j'aime aller à la salle de sport, je t'avoue que je suis content, je fais des grosses années où je tourne entre 4 et 8 fois 52 minutes par an, donc c'est génial. Moi j'aime être sur un plateau et j'aime encore plus quand ça se passe bien avec des bonnes équipes, que ce soit sur le crime de la Tour Eiffel ou sur Tropique ou sur Astrid et Raphaël que je viens juste de terminer il y a 3 semaines. C'est des plateaux où je me sens à l'aise, où je suis attendu, demandé, apprécié. Donc c'est très très plaisant. J'avoue que je le dis tous les matins, je me dis que je suis quand même un grand privilégié.
C'est vrai que les comédiens sont unanimes. Tu sais que tourner avec toi, pour eux, c'est non seulement un grand plaisir, mais ils ont qu'une envie, c'est de retourner très vite avec toi. Comment t'expliques ça? Ils parlent tous d'ambiance générale que tu crées sur un plateau.
Bah oui, j'essaye de faire en sorte de les mettre dans des situations où ils vont me donner le meilleur d'eux-mêmes. Je prends des comédiens que j'aime, donc j'ai envie qu'ils soient bien, j'ai envie qu'ils soient à l'aise, j'ai envie qu'ils soient en capacité de me donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je suis presque comme un coach sportif en fait. Donc je les accompagne au quotidien et en télé ça va tellement vite. On leur demande tellement, on tourne entre 5 et 12 minutes utiles par jour. Donc
ouais, c'est fou.
C'est vrai que le gros du travail est sur leurs épaules. Si jamais ils sont pas bons ou ils se sentent mal à l'aise, on va tous le subir puisqu'on devra refaire et encore refaire les prises. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient à l'aise et qu'on passe surtout un bon moment tous ensemble sur le plateau, quelles que soient les séquences que l'on tourne, qu'elles soient dramatiques ou drôles d'ailleurs. Moi, je dis toujours, on est des privilégiés et on doit profiter de ces moments incroyables d'être sur des films ou des téléfilms ou des séries et de pouvoir proposer aux spectateurs, aux téléspectateurs des univers soit totalement nouveaux, soit revisités, mais quoi qu'il arrive, sera revisité par nous, donc il y aura des petites choses un peu nouvelles.
Bon, en tout cas, donc on retrouve Tropique Criminel, ça sera vendredi à 21h05 sur France 2 avec un nouvel épisode inédit réalisé par toi, et puis samedi sur France 3 21h10, Le Crime de la Tour Eiffel. On ne le rate pas, un magnifique unitaire en tout cas à découvrir, vous allez voir des magnifiques images, et on va continuer à en parler avec Flore Bonaventura. Justement, on va parler du rythme de tournage que tu disais là, parce que Flore arrive dans Tout pour la Lumière aussi sur TF1 et va se lancer aussi un peu dans le pari de la quotidienne, et tu sais ce que c'est toi aussi, donc voilà, on va parler de tout ça avec Flore dans un instant, mais on va écouter un petit extrait, Le Crime de la Tour Eiffel, donc c'est samedi à 21h10 sur France 3. Et nous, on prend l'avion, on te rejoint, ok?
Génial, à tout de suite.
Allez, merci, salut mon Julien,
salut.
Et à très très vite sous les tropiques.
À tout de suite.
Salut les gars, tu vas carrément m'escorter maintenant?
Non, je viens me présenter au capitaine Bélanger.
Le nouveau? Mais pourquoi il vient maintenant? Hein, Eric? Je veux dire, c'est pas le moment là, je dois examiner le corps, Charlie m'attend, c'est... Tu vas pas me mettre en binôme?
Si, pour cette enquête seulement.
Ah non! Non, non, attends, je peux gérer toute seule. J'ai pas besoin que tu... Si c'est à cause de ce qui s'est passé la dernière fois, je t'ai dit, je suis désolée, et là, je vais me tenir à carreau.
T'as intérêt, mais c'est pas à cause de ça que je te mets en binôme. C'est à cause d'elle. Un homicide ici, je sais pas si tu te rends compte, tous les yeux vont être braqués sur nous. On peut pas se rater, à deux, vous irez plus vite.
Oh putain, Eric.
Et devant lui, ça sera commissaire, s'il te plaît. Dans 10 minutes, je suis attendu dans le bureau de Madame le maire.
Et on continue à parler de votre film, Le Crime de la Tour Eiffel. Hein. Samedi, donc, on vous le disait, à 21h10 sur France 3. Et on va continuer à en parler, justement, après Julien Seri, avec Flore Bonaventura, qui est avec nous. Bonjour, Flore.
Salut, Alain.
Ça va bien?
Ça va super top, et toi?
Eh ben écoute, ça va super bien, et puis il y a tellement de belles choses pour toi qui arrivent, on va en parler évidemment dans un instant, mais pour l'instant, Le Crime de la Tour Eiffel, oui. Laura Giordano, qu'on va suivre évidemment dans cette enquête, qui va se voir flanquée en fait d'un nouveau venu à Paris, Mathieu Bélanger. Ça va pas être le grand amour tout de suite entre deux, mais il va y avoir une complicité assez émouvante qui va se créer en fait entre ces deux personnages. C'est hyper intéressant parce que c'est un personnage que tu tisses tout au fur et à mesure de l'histoire.
Ouais, on comprend pas, on sait pas tout de suite qui est exactement Laura, ce qui lui est arrivé. Elle a un côté un peu rigide et sombre, mais qui s'explique au fur et à mesure exactement.
Alors on a planté un peu le décor, hein. C'est le cadavre d'un youtubeur qui est spécialisé dans les vidéos sur l'histoire qui a été retrouvé au premier étage de la Tour Eiffel. Comment a-t-il pu faire comme ça, agir en plein feu d'artifice alors que toute la France était braquée justement sur la tour, et justement la capitaine que tu joues, elle recèle quelques petits secrets enfouis, hein, évidemment, avec la mort de son ancien partenaire, et c'est des blessures aussi que va devoir en tout cas mettre en exergue ce personnage aussi.
Bah oui, complètement, parce qu'elle vu que là on lui colle quelqu'un pour remplacer entre guillemets son partenaire, elle est encore dans le deuil en fait, et elle va devoir retourner dans un partage avec quelqu'un d'autre, et elle n'est pas encore tout à fait prête au départ, quoi.
Quand on est comédienne, quand on passe les castings, on ne sait jamais si on va être pris, mais quand on est pris comme ça et qu'on sait qu'on va tourner sur la Tour Eiffel, c'est quand même le truc ultime, c'est le truc dingue.
Ouais, franchement, j'étais super contente qu'on propose ce rôle-là, vraiment là pour le coup. Et la Tour Eiffel, j'y suis très attachée, moi, depuis ado, parce que je vivais en banlieue, en fait, on avait un appart qui donnait sur on voyait la Tour Eiffel de très très loin, hein, donc on était en banlieue, tu vois. Mais il y avait le faisceau de la Tour Eiffel qui passait au-dessus. Et je me souviens que je la regardais très souvent et en pensant très fort à devenir comédienne, et c'est fou de me retrouver à tourner dessus en fait. Ouais.
C'est une chance, ouais, ça c'est vrai, puis superbement bien filmé par Julien évidemment. Alors comment tu la définirais toi, Laura, justement, vue par Flore Bonaventura?
Bah, Laura, c'est une jeune femme qui adore son métier, qui le fait très bien, qui est très rigoureuse, peut-être parfois un peu trop hors la loi pour son commandant, mais voilà, elle a vécu ce traumatisme-là en perdant son coéquipier, qui en plus était la personne qu'elle aimait à l'époque. Donc elle est elle s'est renfermée, mais c'est Laura quoi.
Ben oui, c'est Laura, et qui va faire équipe avec Mathieu Bélanger, incarné par Benoît Michel. Comment s'est passée votre rencontre à tous les deux?
Ah bah franchement, ça s'est super bien passé avec Benoît, que je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais son travail, je l'avais déjà vu évidemment dans plusieurs projets, mais en fait, tout de suite, il y a eu une complicité, une connexion. C'est quelqu'un d'hyper gentil, qui est hyper à l'écoute, et enfin vraiment, ça a été un petit coup de foudre de jeu avec lui. Et puis je l'admire beaucoup. Franchement, là, j'ai vu le film et je le trouve très drôle. Enfin, je le trouve super.
Voilà. Il y a un gros travail sur l'image, sur la lumière, c'est ce que je disais il y a un instant à Julien, et puis sur les personnages aussi, parce qu'on va voir que Benoît c'est seul avec sa fille aussi, Thaïs, qui n'a qu'un rêve, c'est le voir se remettre en couple, parce que c'est vrai que le personnage joué par Benoît, le personnage de Mathieu, fait un peu timide, un peu pas sûr de lui toujours, donc c'est vrai que ça a tendance à énerver Laura souvent, ça.
Oui, il a pas la même poupe. C'est quelqu'un de plus retenu, qui prend plus son temps. C'est sûr qu'il arrive à Paris, il vient de province, donc pour lui c'est quelque chose de tourner à la Tour Eiffel, alors que Laura, voilà, elle est moins émerveillée que lui. Donc ça donne un contraste assez rigolo entre les deux. Ouais.
S'il devait y avoir une suite,
franchement,
t'adorerais y retourner?
Ah bah j'aimerais beaucoup retourner avec Benoît, et même si ça peut être Julien qui réalise, ce serait super. Ouais, non, j'adorerais, on verra bien, mais ça serait chouette, je trouve que ça pourrait continuer, ouais.
Est-ce que les plus beaux moments, c'est peut-être ceux que t'as passés sur la Tour Eiffel ou pas sur le tournage pour le coup?
Oui, c'était très très étrange, parce qu'en fait on pouvait tourner que de nuit sur la Tour Eiffel, on peut tourner que de nuit, donc je me suis retrouvée avec des pick-up à 2h du matin à tourner jusqu'à 11h du matin, on était complètement en décalage horaire, mais vraiment, et je me suis retrouvée à se changer de costume en haut du deuxième étage de la Tour Eiffel, se faire maquiller et tout ça, c'était assez fou, ouais. Assez fou avec le soleil qui se lève. On n'a pas eu trop de soleil, on a eu un lever de soleil de la Tour Eiffel.
Fallait en profiter.
Et on était tous émerveillés.
Ah oui, le lever du soleil à 360 sur tout Paris, ça devait être incroyable.
Incroyable, et puis sans personne, sans aucun touriste, on s'est vraiment senti privilégié pendant ces 5-6 jours de tournage sur la Tour Eiffel.
Bon, une nouvelle enquête, cas à ne pas manquer, hein. C'est samedi et c'est à 21h10 sur France 3, le crime de la Tour Eiffel.
Ouais.
Et Flore, la bonne nouvelle, on l'a appris il y a quelques jours, tu fais partie du casting de la nouvelle série quotidienne de TF1, Tout pour la Lumière, qui est en tournage, je sais que tu es en tournage du côté de la Ciotat et de Marseille. En ce moment, tu vas y incarner Iris, un des talents justement des studios Lumière. Alors ça, c'est une aventure totalement dingue, c'est une première quotidienne pour toi.
C'est une première quotidienne pour moi, avec TF1 et Netflix qui sont ensemble aussi, donc il y a ce côté-là qui est chouette, ça va passer sur Netflix en premier en réalité, et c'est nouveau format, ouais, c'est marrant comme tournage, c'est différent.
Tu peux déjà nous dire quelques petits mots sur ton personnage ou pas, ou pour l'instant c'est un peu encore top secret?
Franchement, c'est assez top secret pour le moment, Alain.
Bon, tu reviendras.
Mais évidemment
pour le lancement, oui. En tout cas, on aura un grand plaisir à t'accueillir. Normalement la série, on sait que ça devrait arriver peut-être mai-juin. Et sachez en tout cas que Tout pour la Lumière sera diffusé avec 5 épisodes d'avance sur Netflix avant sa diffusion sur TF1 et sur TF1+. Et donc ça devrait arriver en tout cas avant l'été pour faire la jonction avec la prochaine saison de A Star Academy. Mais on a déjà hâte en tout cas de découvrir cette série où tu partages l'affiche avec Joy Esther, avec Lannick Gautry et plein d'autres encore. Ça va être dingue, et plein de talents de The Voice aussi.
Mais oui, carrément des petits, des jeunes talents qui, mon Dieu, qui chantent, qui dansent, qui sont doués en tout, c'est génial.
C'est impressionnant.
Ben oui, mais très, mais surtout que moi, évidemment, ça va être un travail aussi où on chante et où on danse, donc je suis avec des petits jeunes là qui chantent, mais c'est incroyable, ouais, franchement.
Bon, t'arrives à te faire au rythme de la quotidienne, ça va, c'est pas trop compliqué?
Ça va, ça va. C'est sur les chapeaux de roue, faut être dans l'énergie, mais j'y suis, donc c'est cool.
Bon, en tout cas, Tout pour la lumière, c'est bientôt sur Netflix et TF1. Et samedi, ça c'est encore plus près de nous, c'est Le Crime de la Tour Eiffel, à découvrir, ouais. Évidemment, réalisé par Julien Seruit, qui partage l'affiche avec Benoît Michel, Bruno Volkovitch, Wendy Nieto, Alyosha Itovitch et bien d'autres encore. Et Alice Cornillac, d'ailleurs, la fille de Clovis aussi, qui joue le rôle de Zélie. Voilà, il y a un super casting, en tout cas, dans ce film, avec des images magnifiques qu'on vous invite à regarder. Merci beaucoup. Flore, à bientôt.
Merci Alain, je t'embrasse, salut.
À très vite.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Très chère électricité, un documentaire exceptionnel à découvrir donc dimanche à 21h05 sur France 5 dans la case du Monde en Face. Olivier Tosquer, le réalisateur, est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe tous, beaucoup, je dirais, même qui a été un sujet depuis de nombreux mois au cœur évidemment du porte-monnaie des Français. Très chère électricité porte bien son nom, puisque depuis fin 2022, on a vu les prix complètement s'envoler. Et grâce à votre film, on essaye en tout cas de comprendre un petit peu plus tout le maillage qui s'est fait autour de l'électricité en France, mais depuis des décennies finalement. C'est ça qui est hyper intéressant.
Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, l'histoire de l'électricité en France, la vraie histoire moderne de l'électricité, c'est à la Libération. Lorsque Général de Gaulle décide de nationaliser l'électricité, qui était à ce moment-là divisé en plein de producteurs privés différents, d'en faire quelque chose qui s'appelle Électricité de France, EDF, et d'en faire un monopole qui permet de distribuer de l'électricité de façon abondante et à bon marché, en tout cas.
Oui, et puis surtout avec un vrai équilibre dans toutes les régions de France, parce que avant la guerre, l'électricité qui était fournie, elle pouvait être à n'importe quel prix, mais elle pouvait être à prix différent à Paris, par exemple, d'Abiarritz, quoi.
Exactement, exactement, tout à fait. Donc c'est pour unifier tout ça. On a une seule entreprise en 46. On arrête d'avoir des situations différentes dans différentes régions de France. Et on a juste une électricité nationale française et régulée, puisque c'est un monopole public, et donc un regard sur le prix qui va être proposé aux consommateurs, etc., à tout le monde, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à l'électricité. Et juste en deux mots, c'est que cette décision de la Libération a fait que on a pu faire opérer le redressement et la reconstruction et les Trente Glorieuses grâce notamment à cette électricité qui était enfin accessible à tous et au même prix partout.
On a vu bondir les prix qui ont été multipliés par 2,5 en même pas 20 ans pour le coût de l'électricité, avec une abondance, avec un encouragement même aujourd'hui des collectivités publiques à nous faire passer au tout électrique, que ce soit au niveau du chauffage, au niveau des voitures, au niveau de plein de domaines différents, les recharges de téléphones portables, enfin tout est fait pour qu'on consomme encore plus d'électricité, alors qu'aujourd'hui la France, finalement, on se rend compte que fin 2022 n'était pas préparée à ça. C'est ça qui est dingue.
Alors il y a eu un gros problème, effectivement.
Avec la guerre.
Il y a un gros problème.
Mais oui.
Avec la guerre en Ukraine, qui a commencé à désorganiser tous les marchés d'énergie, parce que il y avait les incertitudes autour du gaz russe. Donc forcément le prix de marché d'électricité, parce que maintenant, depuis que EDF est une entreprise privée et que la France a intégré le marché européen d'électricité, sont maintenant les mécanismes de marché qui font le prix. Et donc en 2022, il y a la guerre en Ukraine, et puis il y a aussi un problème français très clair, qui est que nos centrales nucléaires en 2022, elles tombent en panne. La moitié du parc nucléaire français tombe en panne, donc ça veut dire qu'elles ne produisent plus d'électricité.
Oui, mais ça c'est une politique volontaire de la France de base, justement les remettre au goût du jour, ou de les rénover, de les remettre en ordre de marche.
Pas tout à fait. Il y a eu un vrai problème, c'est qu'il y avait un problème qu'on appelle de corrosion sous contrainte, c'est un problème de soudure en fait dans certaines parties du réacteur, des réacteurs nucléaires, qui sont tous les mêmes dans tout le parc français.
Ouais.
Et donc il y a eu un problème justement de corrosion dans une centrale, et donc EDF, par souci de précaution et pour assurer la sécurité, a préféré arrêter la moitié du parc en fait des centrales pour les réparer,
des
réacteurs, même si en l'occurrence il n'y avait eu aucune fuite radioactive ou je sais pas quoi, mais pas assez de précautions, et heureusement, quelque part, on a décidé de d'arrêter pour réparer ce petit défaut qui pouvait poser un problème un jour ou un autre. Et donc, c'était en 2022, alors même déjà que le prix de l'électricité sur le marché donc était très élevé. Et donc, comme la France, EDF, les centrales nucléaires ne pouvaient plus produire autant d'électricité, puisque les centrales étaient, beaucoup de centrales étaient arrêtées, et ben EDF devait acheter de l'électricité sur les marchés libres. Et là où les prix avaient explosé parce que à cause de la guerre en Ukraine, justement.
Alors c'est vrai que depuis 5 ans, on ne cesse de nous faire peur. On a vu, évidemment, alors le Covid, et puis ça a été un peu la double peine avec justement cette peur qu'on a eue, où on n'a pas arrêté de nous dire justement avant l'hiver, il faut faire attention à la consommation. On a vu l'apparition de l'application EcoWatt qui nous permettait de voir si le flux était tendu d'électricité ou pas, s'il fallait baisser un peu les choses, de pas mettre les chambres à plus de 19. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place encore. Est-ce que c'était pour nous faire peur ou vraiment il y avait un gros problème à ce moment-là qui aurait pu risquer de mettre la France entière dans le noir?
Non, il y avait un problème, il y avait un vrai problème, puisqu'il n'y avait pas assez d'électricité disponible. Donc, toute cette politique qui a été mise en place et tous les conseils qu'on a donnés pour économiser l'énergie, l'électricité et être le plus économe possible a permis de passer cette difficulté sans problème. Mais si on n'avait pas essayé d'être un peu plus sobre, et donc si on n'avait pas été alerté et que les Français en général ont été ont assez bien respecté les choses, donc on a été plus sobre, on a moins dépensé d'électricité, donc on en a eu assez, et donc il n'y a pas eu de coupure de délestage comme on appelle, mais il y avait des vrais risques de délestage, oui, absolument, tout à fait, qui ont été évités aussi. Non seulement les Français ont fait attention, mais en plus on a eu un peu de chance, c'est que l'hiver 2022-2023 a été doux, et parce que c'est très important pour la France. Il faut savoir qu'en France, un degré en moins de température extérieure, c'est deux réacteurs de centrales nucléaires à mettre sur le réseau, à produire, qui doivent produire. Donc dès que la température s'abaisse, on est extrêmement sensible. Notre système électrique est extrêmement sensible.
Bon, ça sera au moins un bon côté du réchauffement climatique si on doit en pouvoir en trouver un, je dirais presque. Ce qui est bien, c'est que votre film il pose plein de questions et surtout comment à l'avenir relever ces grands défis d'une électricité plus verte, abondante, parce qu'il va y en avoir besoin d'électricité aujourd'hui. On entend nous encourager au tout électrique. C'est ce que je disais, voiture, trottinette, vélo, tout est électrique maintenant.
Oui, tout à fait. Alors on va avoir de plus en plus besoin d'électricité. Et pour les problèmes de décarbonation, pour les problèmes de protection du climat, qui sont très importants, mais cette décarbonation ne va pouvoir se faire que si on a de l'électricité et si on a les moyens de l'acheter, cette électricité.
Ben c'est ça.
Donc le prix de l'électricité est très très important. Si on laisse les prix de l'électricité exploser, et ben personne ne va vouloir acheter une voiture électrique parce que ça coûtera plus cher de mettre de l'électricité dans sa voiture que de mettre de l'essence. Donc il y a vraiment un vrai souci, et enfin c'est très très important en tout cas de gérer cet approvisionnement électrique.
Ouais.
C'est important pour le bien-être des Français et pour les entreprises aussi d'ailleurs, puisque l'énergie et l'électricité est un facteur, et le prix de l'électricité est un facteur très important dans la compétitivité des entreprises françaises.
En tout cas, on apprend plein de choses. Moi, j'ai trouvé dans votre film, on apprend un peu comment se fait le maillage, un peu justement. On apprend que l'électricité, c'est un peu comme une gigantesque autoroute où il faut gérer effectivement les bouchons qu'il peut y avoir à certains endroits pour dévier des chemins, des itinéraires bis, comme on dirait. Et on a toute une équipe de bisons futés de l'électricité, en fait, qui œuvre justement à visage couvert, puisqu'on ne peut pas justement les voir, hein, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui ces personnes-là doivent être absolument caché en quelque sorte?
Alors il y a donc quelque part en France, en région parisienne plus exactement, un endroit, un centre où il y a les aiguilleurs de l'électricité qui aiguillent l'électricité dans les différentes lignes à haute tension pour éviter la congestion, pour éviter donc cette bouchon qui pourrait faire un blackout à un moment. Puisque le système électrique doit être extrêmement équilibré, c'est-à-dire que la production doit être égale à la consommation doit être égale à la production. Sinon tout s'arrête, il n'y a plus d'électricité. Alors, il y a en région parisienne un endroit, un centre très secret, très confidentiel défense, dans lequel on a pu tourner, nous, avec la condition, comme vous le rappeliez, de ne pas qu'on ne puisse pas identifier les agents qui travaillent là-dedans, parce que c'est extrêmement stratégique. Imaginez un groupe mal intentionné décide de, parce qu'il a identifié des agents qui travaillent là-dedans, de les kidnapper ou kidnapper leur famille, par exemple, et ensuite de leur dire, attention, vous allez faire tout péter maintenant, vous allez vous arranger pour que le réseau saute, que la France n'ait plus d'exister du tout. Vous voyez, et c'est donc pour protéger tout ça que c'est vraiment, ce sont des gens dont on parle jamais, mais ce sont des gens très importants et qui sont protégés par un secret important.
Bon, il y a plein de choses en tout cas qu'on va découvrir dans ce très beau film, très cher Électricité. C'est le documentaire à ne pas rater à 21h05, dimanche soir sur France 5 et dès dimanche matin sur France.tv. Vous l'aurez bien sûr ensuite en replay. Dernière question, à travers l'enquête que vous avez menée, Olivier, à quoi on peut s'attendre pour l'avenir, à votre avis?
Malheureusement, le prix de l'électricité n'est pas prêt de baisser. À vrai dire, ça ne peut que augmenter. Il faut juste maintenant qu'on ait un système qui permette de canteler cette
baisse
de la maîtriser le plus possible. Mais tous les éléments, la demande d'électricité qui va augmenter, les mécanismes de marché qui sont de plus en plus complexes et qui sont plutôt inflationnistes. Enfin, les prix montent un peu tout le temps. La fin de ce qu'on appelait le nucléaire régulé, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser de l'électricité produite par nos centrales nucléaires amorties et donc à un prix faible, cette possibilité est en train de se terminer, parce qu'à la fin de l'année, elle n'existera plus pour des raisons de concurrence européenne. Ce sera beaucoup le marché maintenant qui va faire le prix. Et donc, malheureusement, pour éviter, enfin, le prix va monter, et pour éviter d'être étranglé par ces prix d'électricité, il va falloir aussi faire beaucoup d'efforts de sobriété, en fait.
Ouais, ça va marcher un peu comme, l'essence ou le gazole qui subit effectivement des fluctuations de marché régulières, quoi.
Exactement. Alors que jusqu'à présent, on était plutôt protégé par un système très compliqué que j'explique dans le film, mais on était plutôt protégé de ces soubresauts de marché, grâce à notre nucléaire historique, mais ce système de nucléaire historique ne pouvait pas rester plus longtemps, pour des raisons de concurrence européenne. Donc, comme je vous dis, donc la France était engagée à le supprimer à la fin de cette année-là, de cette année 2025.
Merci Olivier pour cette discussion hyper intéressante. Votre film en tout cas va encore un peu plus, je vais faire un jeu de mots, nous éclairer. Ça sera donc dimanche soir à 21h05 sur France 5. Ça s'appelle Très cher Électricité. On va se quitter avec un petit extrait. Merci beaucoup Olivier, à bientôt.
Merci beaucoup, merci.
Il n'y a plus de vie telle qu'on la connaît sans électricité. Il n'y a plus non plus de télécommunications. Il n'y a plus de services de sécurité. Il n'y a plus de services d'urgence. Notre société est dépendante de l'électricité.
L'électricité, c'est un produit de première nécessité. D'ailleurs, c'est considéré comme un service public.
Il n'y a pas de vraie souveraineté s'il n'y a pas des choix que la nation peut porter et tenir en matière d'énergie.
L'énergie, c'est stratégique. C'est stratégique.
Qui pourrait se passer d'électricité aujourd'hui ? À la maison, au travail ou dans les lieux publics, on s'en sert pour s'éclairer. Se chauffer, s'alimenter, communiquer, se déplacer. Bref, le courant électrique, c'est l'énergie essentielle de la vie quotidienne. Un produit miracle, mais qui coûte de plus en plus cher. Sans que l'on sache très bien pourquoi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Ah, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ça va être fou encore. On va parler évidemment de la nouvelle création originale Canal+, Cimetière Indien, avec toute une partie de l'équipe qui nous rejoindra. Deux coups de cœur ciné exceptionnels avec Mikado, Baya Kasmi, Félix Moati et Vima Laponce seront nos invités. Et puis on parlera également de Doux Jésus avec Frédéric Kering et Marie Loubéry qui seront avec nous.
Le rendez-vous des stars, C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.